Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, mercredi 5 octobre, journée mondiale des enseignants, avec cette question posée aujourd'hui lors d'une conférence à l'UNESCO. Quelle motivation pour les enseignants? Une profession traversée par des doutes presque partout dans le monde. Les enseignants sont au cœur de l'un des objectifs 4 du développement durable sur la qualité de l'éducation, mais pourtant ils ne cessent de s'interroger sur leur salaire, sur leurs conditions de travail, sur le sens même de leur mission et sur leur reconnaissance au sein de la société. Du Bénin à la Colombie, en passant par Haïti, où d'ailleurs en ce moment même les enfants et les enseignants sont en plein cyclone, nous allons croiser des analyses, des témoignages avec nos invités et puis bien sûr vos appels, les voisins et les voisines. Vous nous appelez tout de suite si vous souhaitez participer à l'émission pour nous dire ce qui vous motive ou vous démotive lorsque vous êtes au milieu de vos élèves. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est tous les jours le même, du lundi au vendredi, 33 1 84 22 71 71. Et tout de suite, je vous lis des messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux. Mamadou à Dakar nous dit qu'au Sénégal, il n'y a pas d'enseignants motivés. Ils bâclent les cours et les enfants n'apprennent vraiment que s'ils ont des tuteurs à domicile. Babacar, également dans la capitale sénégalaise, nous dit que depuis des années, il existe des conflits entre l'État et les enseignants qui revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Chaque année, on frôle l'année blanche et c'est inacceptable. Voilà, une exaspération du côté des parents d'élèves. Freddy à Bukavu, à l'est de la RDC, nous dit que les enseignants congolais souffrent beaucoup pour aller à l'école. Ils s'achètent un vélo ou une moto alors que les enfants arrivent en jeep climatisé. Bon, c'est une image assez forte. Sin est à Los Angeles, en Californie. Aux États-Unis, nous dit Sin, la situation est compliquée. Les enseignants ne sont pas bien payés, menacés par les fusillades au sein de leur établissement scolaire. Si tu veux être enseignant, il ne faut pas avoir peur de travailler loin et dans des quartiers dangereux. Tu n'as pas le choix, sauf si tu es prêt à démissionner, à prendre le risque de ne pas trouver un autre travail. Un auditeur nous écrit de N'Djamena. Le métier d'enseignant est le plus difficile des métiers au Tchad. Les profs sont négligés. Ils n'ont ni salaire respectable, ni prime. Bien sûr, lorsqu'on fait ce métier, ce n'est pas par vocation. Mais on a le droit à une motivation. Amiel est également un enseignant tchadien. Il nous dit que souvent, nous avons plusieurs mois de retard de salaire. Comment être motivé dans ces conditions? Appelez-nous maintenant au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Et nous accueillons un voisin qui nous appelle de Nouakchott dans la capitale mauritanienne. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Abdoulaye, vous avez la parole. Vous êtes enseignant dans une école primaire, une école d'application dans la capitale mauritanienne. Quel est l'état de votre motivation en tant qu'enseignant aujourd'hui?
Donc, ravi de vous retrouver, ainsi que les 7 milliards d'autres voisins. Effectivement, je suis à Nouakchott en Mauritanie. Donc, je souhaite d'avoir une bonne année scolaire pour tous les enseignants mauritaniens et leurs élèves, et à travers aussi tous les enseignants du monde. Mmh. Donc, pour ce qui est de motivation, moi, je parlais plutôt de démotivation, parce qu'en réalité, c'est ce que nous vivons ici. Donc, je me permets quand même de vous donner quelques exemples pour étayer cette démotivation. Moi, la plupart des enseignants que je rencontre, c'est des gens qui cherchent à être détachés ailleurs, qui sèchent tout simplement les cours parce qu'ils ont une autre activité plus rentable. Et tout récemment, j'ai lu dans un article qu'il y a des professeurs qui ont refusé une promotion de directeur général parce que ça les empêche de faire des cours ailleurs. Donc, ces exemples, quand même, sont vraiment décrivent en tout cas l'état de démotivation dans lequel se trouve le système mauritanien.
Vous décrivez un peu des enseignants mercenaires qui préfèrent refuser des avancements de carrière pour faire leur business ailleurs. Mais vous, Abdoulaye, vous avez 30 ans de métier, voilà. Je crois, c'est ça?
Voilà, donc en ce qui me concerne, je suis pourtant dans une des meilleures écoles de Mauritanie, c'est-à-dire l'école annexe. J'ai un effectif réduit d'élèves.
Oui.
J'ai quelques indemnités parallèles par rapport à la fonction.
Alors, quand vous dites des effectifs réduits d'élèves, vous avez combien d'élèves dans votre classe?
Comment ?
Combien d'élèves dans votre classe ?
Donc, nous, nos effectifs sont entre 25 et 30.
Ah oui, ça s'appelle vraiment des effectifs réduits pour le continent.
25 et 30, vraiment, on a rien à dire. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, peut-être je dirais que c'est l'usure, c'est le poids des années, parce que 30 ans, quand même, ce n'est pas hier. Donc, ce que je veux dire me concerne particulièrement, mais à quelques variantes près, c'est des choses aussi qui concernent la plupart des enseignants que j'ai eu à rencontrer tout au long de cette carrière-là. Donc, les gens déplorent surtout le salaire qui constitue juste une aumône de vendredi, qui est plus consistante que le monde d'autres jours. La plupart des gens, c'est ce qu'ils vous disent. Le salaire constitue juste un pourboire. Il ne peut rien régler de votre vie. C'est pourquoi vous retrouvez les enseignants dans les commerces, vous les retrouvez dans les écoles privées, ainsi de suite. Au niveau de la fonction publique, il n'y a aucune sanction qui est prise contre eux. Donc, le plus facile, c'est d'aller récupérer de l'argent. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans une société vraiment mercantile, où c'est l'argent qui compte. L'école n'est plus un ascenseur social. Donc, ce qui veut les gens, pour être bien vus dans la société, il faut qu'ils aient de l'argent, quitte à boycotter l'école, quitte à ne pas faire convenablement leur travail.
Mais comment vous vous sentez reconnu par les parents, par exemple, par les familles dans le quartier en tant qu'enseignant, Abdoulaye ? Est-ce que ça, c'est une source de motivation pour vous ?
Nous avons ici un adage, Hassania, qui dit, si vous ratez tout, vous ratez tous les concours, ne ratez pas quand même celui de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est un dernier recours qu'il faut le faire. Donc les gens n'y viennent pas par conviction, n'y viennent pas par vocation. C'est parce qu'ils se sont cassés les dents un peu partout, qu'ils n'ont rien trouvé. Ils viennent ici. Et généralement, c'est des gens qui sont couverts par des gens qui sont dans l'administration. Ce qui fait que même s'ils ne font pas leur travail, ils ne sont pas sanctionnés.
Mais vous êtes pourtant très sollicité pour donner des cours comme répétiteur particulier dans les familles, non ?
Voilà, même ça. J'allais venir à ça. Vous allez trouver des parents qui vont prendre et qui vont vous payer gracieusement. Mais à un certain moment, vous allez lui dire, cet élève-là, vraiment, il ne progresse pas. Sa réponse sera, ça, ce n'est pas votre problème.
Mais alors, pourquoi les parents vous sollicitent pour donner des petits cours à leurs enfants fondamentalement, vous dites qu'ils ne souhaitent pas que leur enfant progresse? Attendez.
Moi, je me dis que c'est juste une question d'orgueil. Il faut être vu dans le quartier. Bon, ce monsieur-là, il a une 4x4, il a une maison aussi. Il lui faut un enseignant, comme il a un boy, il a un laveur. De la même façon, c'est ainsi que l'enseignant est considéré ici.
Donc vous êtes juste un simple outil de statut social pour des familles de commerçants qui veulent montrer leur réussite. C'est comme ça que vous vous sentez perçu, finalement.
Cet enfant-là, je vous dis, cet enfant-là qui ne progresse pas, 3 ans, vous allez l'entendre là-bas en Angola ou bien vous allez l'entendre aux Émirats Arabes Unis en train de chercher l'argent. Il faut dire aussi que la motivation des idoles des enfants, ce n'est plus le fonctionnaire. C'est peut-être un Ronaldo, c'est peut-être une chanteuse. C'est ça l'idole des enfants.
Bon, eh bien, ça démarre fort.
Ne leur apporte rien.
Ça démarre fort avec votre témoignage, Abdoulaye. Un témoignage plutôt accablant, 30 ans de carrière. Et grosso modo, vous vous sentez démotivé depuis combien d'années ?
Bon, depuis 20 ans, une quinzaine d'années.
Ah oui,
20 ans.
D'accord. Ouais. Abdoulaye, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter aujourd'hui ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ?
Une bonne retraite.
Une bonne retraite. Merci beaucoup de nous avoir. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Abdoulaye. Je crois que vous avez encore tout de même quelques années. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous parlons de la motivation des enseignants cette journée mondiale des enseignants. Nous passons la parole à Mohamed qui est à Conakry. Bonjour Mohamed.
Bonjour les voisins, les voisines.
Mohamed, vous avez 36 ans. Vous êtes prof de philo dans un lycée à Conakry. Vous avez entendu le témoignage d'Abdoulaye?
J'ai vraiment entendu le témoignage, c'est la même chose passée en Afrique. Et la motivation, ça n'y est pas. C'est l'état d'abord qui empêche même les enseignants d'être motivés. Quand je prends mon cas, par exemple, je suis contractuel d'État. Donc, on nous donne parfois à peu près quelque chose de moins de 50 dollars par mois comme salaire.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas un enseignant fonctionnaire, hein, c'est bien cela.
Fonctionnaire, effectivement. Donc, on fait la grande partie du boulot, mais ceux qui gagnent de l'argent ne sont pas reconnus. Moi, j'ai fait 4 ans dans un lycée public, je ne recevais rien, même un franc, je ne recevais pas.
Merci beaucoup de nous avoir appelés, Mohamed. Un salaire de $50 par mois, un statut de contractuel de l'éducation. Alors, tout de même, tous les témoignages qu'on reçoit ne sont pas aussi pessimistes. Frédéric à Cotonou nous dit « Moi, je suis enseignant vacataire de français depuis 4 ans à Cotonou. Je suis très fière d'exercer ce métier, surtout quand les élèves disent « Voici mon professeur », malgré mon statut de vacataire. » Il y a aussi le témoignage de Patrice à Cotonou également. On a beaucoup de Béninois, évidemment, qui nous écrivent parce qu'il y a une grande réforme de l'éducation qui est entamée. Au départ, je suis devenu enseignant par obligation. À présent, je le suis par dévotion. L'enseignement me procure de la joie. C'est devenu une vraie passion. Ou encore Mahaman Gaoundéré dans le nord du Tchad, dans le nord du Cameroun, pardon. Moi aussi j'étais enseignante, nous dit Mahaman, par accident, mais avec le temps c'est vraiment devenu ma vocation et j'ai développé une conscience professionnelle au point où les jours fériés je suis furieuse de prendre du retard. Être enseignant est un métier noble mais très ingrat. Appelez-nous au 33 84 22 71 71. Issaoun Gado, oui. Vous êtes dans le studio avec nous. Bonjour. Êtes de passage à Paris. Vous êtes venu pour cette conférence pour la Journée mondiale des enseignants à l'UNESCO. Vous êtes professeur à l'université de Parakou. En fait, vous êtes formateur d'enseignants à l'école normale supérieure de Parakou. Je vous ai vu tous là prendre des notes par rapport à tous les témoignages. Oui. Pour certains accablants que l'on a entendus, comment vous réagissez ?
Je vais réagir par rapport au témoignage d'Aboubacar et de Mohamed. Aboubacar parlant de la démotivation et Mohamed allant dans le même sens et tous les deux ont mis l'accent sur le manque de salaire. Mais quand on voit le témoignage venant du Bénin, il y a une certaine fierté par rapport donc à l'élève qui va voir son ancien et dit « voilà mon ancien ». Je pense qu'il faudrait qu'on puisse situer la motivation dans trois dimensions. Il y a la dimension, disons, extrinsèque, qui est la motivation, le salaire, etc. Il y a aussi la dimension intrinsèque. Les deux premiers, on parlait beaucoup plus la dimension extrinsèque. On n'est pas reconnu, il n'y a pas l'argent, ceci. Et ça, je m'inscris correctement que c'est juste. Ça, c'est juste. Au Bénin, on a des situations comme ça. Il y a ceux qui viennent dans l'enseignement pensant qu'il y a de plaisir, pensant qu'il y a de l'argent. Et il y a d'autres, ils n'ont pas trouvé autre chose à faire. Or, c'est dans l'enseignement qu'on a besoin de...
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour l'essentiel des enseignants, ce sont ce qu'on appelle des enseignants par défaut ou pas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, au Bénin, ce sont des enseignants par défaut. Lorsque l'État a pu recruter 10 000 enseignants pour le primaire, qui n'avaient pas une formation au départ. Il faut maintenant s'interroger, mais quelle est la motivation? Mais quand on travaille avec les enseignants, on constate que certains sont venus parce que les apprenants n'ont pas d'enseignants. On veut aller les aider. Donc c'est une motivation, disons, c'est de l'altruisme, une motivation intrinsèque. On veut aider nos frères, mais par la suite, un autre problème se pose. On ne nous paye pas. Donc, la motivation extrinsèque arrive. Et c'est par rapport à ça qu'il y a beaucoup plus la démotivation.
Oui. Luc Ria, alors vous, vous travaillez avec des enseignants qui enseignent dans des quartiers difficiles en France, dont certains sont démotivés. Est-ce que là, on n'est pas en train de confondre, dans notre discussion, motivation et vocation ? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une vocation pour exercer ce métier, alors que pour tant d'autres métiers, on ne parle pas de vocation d'ailleurs ?
Oui, effectivement, je suis en train de réfléchir à cette question-là en même temps que vous et je me dis que peut-être il y a quelques années, une décennie avant, on avait des collègues qui venaient vraiment sur le métier par vocation et qu'actuellement, c'est peut-être autant le contexte économique, le contexte culturel qui favorise finalement cette perte de symbole et de valeur même de l'enseignement. Alors que lorsqu'on est sur place et qu'on voit ces jeunes enseignants, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à réussir avec toujours un peu cette idéalité du métier pour pouvoir aider des enfants, aider des générations, de jeunes générations qui sont frustrés, qui sont en difficulté. Et lorsqu'on leur permet quand même, en travaillant avec eux, de leur redonner le sourire et des moyens très concrets pour enseigner, vraiment, la motivation est là. Et je crois qu'au-delà du salaire, ils sont vraiment portés par ce métier-là qui est un beau métier.
Ceci dit, vous constatez aussi en France une désaffection pour ce métier. Il y a de moins en moins de jeunes qui postulent pour les concours.
Énormément. Et c'est une vraie question internationale. On voit des phénomènes d'usure, même chez les tout débutants, même dans des conditions françaises où, a priori, ils ont un salaire décent. Malgré tout, c'est un métier de plus en plus complexe, avec un métier qui est à la fois individuel et collectif, avec des publics hétérogènes, qui ne sont pas aussi dociles qu'à une époque. Et vraiment, il y a un vrai challenge au niveau professionnel, au quotidien. Et malheureusement, l'ensemble de la formation n'est pas suffisante. Et c'est sur ces questions-là qu'il va
Bien
falloir
sûr,
insister.
On va en parler de la formation comme source possible aussi de motivation. Alors, on fait vraiment le grand écart aujourd'hui entre des situations, entre des pays extrêmement différents. Mais on constate tout de même ce sentiment de démotivation ou d'usure. Laura Davison, vous travaillez dans un réseau international pour l'éducation en situation d'urgence, qui est composé de 12 000 professionnels. Ça veut dire que sur le terrain, vous êtes davantage dans des pays comme le Tchad ou la Jordanie, par exemple, pour travailler dans des camps de réfugiés, plutôt que dans des pays où on se borne à réformer le système de l'éducation. Comment vous pourriez qualifier la motivation des enseignants dans des endroits comme ça ?
Voilà, donc dans ces pays qui font face à des crises humanitaires, c'est vraiment très difficile de motiver les enseignantes. Souvent, ils n'ont pas de ressources de base, ils n'ont pas de cahiers, de manuels, des crayons, même pour enseigner les enfants. Ils ont souvent des classes surchargées, de 40 étudiants à même 100, 100 étudiants dans une classe. En plus, s'ils sont des étudiants qui viennent d'un autre pays, parfois ils ne parlent pas la langue du pays hôte. Donc ça, c'est vraiment une difficulté pour les enseignants de communiquer avec les
c'est
étudiants.
C'est le cas notamment, par exemple, au Tchad, là où on a des enseignants qui accueillent des enfants réfugiés du Soudan.
Voilà. Donc, au Tchad, il y a encore 300 000 réfugiés soudanais du Darfour qui sont là depuis 13 ans dans des camps des réfugiés. Ils ont besoin encore de l'aide humanitaire.
Ouais. C'est-à-dire, quand vous dites 300 000 réfugiés, ça veut dire la moitié d'enfants qui ont besoin d'être scolarisés.
En fait, il y avait un rapport des Nations Unies, de l'Agence pour les réfugiés, récemment, qui a dit que 50% des réfugiés sont des enfants entre l'âge de 6 ans et 18 ans.
Est-ce que des enseignants qui se retrouvent dans des situations avec des enfants qui ne comprennent pas la langue, qui viennent d'un autre pays, qui ont vécu des traumatismes, il y a un sentiment d'impuissance de la part des enseignants, qu'on ne leur donne pas les clés pour réussir ce qu'ils devraient avoir réussir avec ces enfants?
Oui, justement. Et puis... bon, parfois, il y a les enseignantes qui n'ont pas eu de... Comme au Bénin, ils ont besoin d'enseigner, même qu'il n'y avait pas cette formation avant, parce qu'il y a un besoin très, très large et il y a besoin de plus d'enseignantes. Donc, ils n'ont pas la bonne... Ils n'ont pas une formation professionnelle, ils ne sont pas prêts, même s'il y avait une classe de 15 étudiantes. Ils ont vraiment besoin de plus de soutien des gouvernements et des organisations internationales pour faire face à ces défis.
Ouais. Je vous lis aussi un message qui nous parvient de Mahamadou qui est à Bamako. Il nous dit qu'au Mali, l'enseignement est vu comme un sous-métier, un simple gagne-pain. 70% des enseignants maliens n'ont pas la formation qu'il faut et les autorités politiques n'accordent aucun sérieux à l'enseignement public. Voilà, on a beaucoup de témoignages comme ça d'enseignants qui, en dehors des questions salariales, nous disent en fait on n'a pas les moyens de faire notre métier tel qu'on nous donne la mission de réussir, en fait, finalement. Vous restez avec nous. En cette journée mondiale des enseignants, on s'interroge sur la motivation des enseignants. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous démotive lorsque vous êtes au milieu de vos élèves? Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash. Nous serons d'ailleurs en direct avec Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation en Haïti, qui a beaucoup de choses à nous dire en plein cyclone.
Autour de 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Journée mondiale des enseignants aujourd'hui. Nous nous interrogeons sur leur motivation, salaire, formation, conditions de travail, reconnaissance sociale. Qu'est-ce qui vous motive ou vous démotive lorsque vous êtes au milieu de vos élèves? On a entendu plusieurs témoignages édifiants, certains malgré tout positifs. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. En studio, on est en compagnie de Laura Davison qui travaille dans un réseau international pour l'éducation en situation d'urgence. Luc Ria, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'École normale supérieure et titulaire d'une chaire à l'UNESCO sur la formation des enseignants. Du coup, vous travaillez avec des collègues africains, mais aussi, bien sûr, beaucoup avec des collègues dans des quartiers difficiles en France. Issaou Ngado, vous êtes de passage à Paris et on est ravis de vous recevoir. Vous êtes formateur d'enseignants à l'ENS, l'École normale supérieure de Parakou, au Bénin. Et bien justement, on va revenir à la situation du Bénin qui est un peu en ébullition pour les enseignants puisque il y a une réforme de l'éducation en cours. C'était la rentrée lundi dernier. On va entendre le reportage de Delphine Bousquet. Une rentrée placée sous le signe des réformes, notamment à l'école primaire. Il faut rappeler les résultats catastrophiques au certificat d'études primaires. Moins de 40% de réussite contre 89% l'année précédente. C'est très simple, cette année, les élèves n'ont pas été repêchés. Conséquence, beaucoup d'élèves redoublent la dernière année d'école primaire. Et pour faire face à la situation, eh bien, Salimane Karimou, le ministre de l'Éducation, a obtenu l'organisation d'un concours pour recruter plus de 3000 enseignants. Mais il en manque encore 15 000. Il a donc décidé de renvoyer dans les classes plus de 200 instituteurs. Alors 200 sur 15 000 qui manquent, ça ne va pas régler la question. Mais des instituteurs qui travaillaient finalement dans des administrations depuis moins de 15 ans et qui sont en bonne santé. Tout cela après 10 jours de formation à l'école normale supérieure, à l'école normale d'instituteurs d'Alada, où Delphine Bousquet a rencontré Placide Chacran et il n'a enseigné que 4 ans. Et ensuite, il a intégré un bureau au ministère. Il n'est pas content.
J'ai quitté l'école parce que le besoin se fait sentir là-bas. On m'a demandé de venir aider l'administration. Maintenant, quand on me renvoie, on me forme ici avec 10 jours. Je ne vois pas ce que je peux apprendre ici. Et encore que les conditions dans lesquelles on m'envoie, ça ne me donne pas le cœur à la tâche pour que je puisse me donner et voir si je peux encore me réapprendre et me réadapter pour pouvoir former les enfants.
On sent bien ici dans cette classe que les enseignants qui sont là n'ont pas tellement envie de retourner face aux élèves. Est-ce que vous pensez que ça aura des conséquences?
Des graves conséquences. Il faut la vocation, il faut l'amour des enfants, il faut la conscience professionnelle. Et on n'a pas ça. Et en classe, c'est sûr et certain que les enfants vont en partir. Ça, c'est clair, ne nous voilons pas la face. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous allons faire du mieux que nous pouvons. Et j'aimerais que l'État revienne, que le gouvernement revienne sur sa décision et qu'on nous retourne à nos postes respectifs dans l'administration. Sincèrement, on dit que l'éducation est la première priorité de l'État. Et c'est comme ça qu'on traite l'éducation.
Alors Placide parle de 10 jours de formation, il y en aura d'autres hein, à toutes les vacances scolaires qui sont prévues, qui sont financées par le Partenariat mondial pour l'éducation. Dans le même temps, d'autres enseignants qui n'ont jamais quitté la craie, comme on dit, étaient aussi en formation avant la rentrée. C'est le cas de Judith Rouenou. Elle est directrice d'une école primaire à Porto Novo. Elle enseigne depuis 19 ans. Elle détient un des meilleurs succès du pays, 90% de réussite au certificat d'études primaires pour ses élèves. Voici son message sur la motivation des enseignants.
Oui, je demanderai à l'État béninois de motiver plus les enseignants parce que le travail que nous abattons, ce n'est pas sûr que l'État puisse nous rémunérer à juste titre, mais qu'on nous taille un peu plus d'importance parce que nous travaillons beaucoup. L'instituteur n'a pas de repos, ni à la maison, ni à l'école. Nous sommes la base du développement de ce pays.
Le gouvernement a décidé de renvoyer dans les classes des enseignants qui étaient dans les bureaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure?
C'est une très bonne mesure. C'est même une mesure salutaire. Parce que les jeunes qui viennent à peine de commencer, qui s'agglutinent autour d'un petit bureau, se disent je ne sais quoi, alors que les classes sont vides. Et ceux qui sont sur le terrain sont obligés de tenir 3 classes seuls. C'est de l'injustice pure. Qu'ils reviennent et ce pourquoi ils ont été recrutés, qu'ils viennent le faire. Ils sont recrutés enseignants, la craie en main, et nous voulons qu'ils soient avec la craie et face aux enfants. Les enfants ont besoin d'eux. Nous sommes là, nous allons les aider à réussir leur mission républicaine.
Est-ce que ça veut dire, d'après vous, qu'aujourd'hui, ceux qui décident de devenir enseignants n'ont plus la vocation comme avant?
On vient à l'enseignement, la majorité, ce n'est pas par vocation, mais la vocation arrive par la suite. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a d'autres qui courent derrière l'argent. Mais si vous voulez réellement de l'argent, ne venez pas à l'enseignement. Non.
Est-ce que vous pensez que ces enseignants qui, pour certains, ont passé 10 ans dans un bureau, est-ce qu'ils vont être assez motivés pour reprendre la classe?
Avant d'aller au bureau, ils ont été formés. Ils sont enseignants. Quand ils reviendront sur le terrain, avec l'encadrement des directeurs d'école, du réseau d'animation pédagogique, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, c'est sûr que ça ira. Ils vont travailler. Ils sont enseignants. Et quand on est enseignant, on n'oublie pas son métier.
Issa Ongado, vous qui êtes béninois, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme de l'éducation en cours au Bénin? Réinjecter des instituteurs qui sont partis dans les bureaux, dans les limbes des ministères, les remettre dans les salles de classe. Est-ce que ça adresse un message positif et motivant pour les autres, pour l'école en général?
Je pense d'abord que Judith a clarifié la situation au Bénin. Ce sont les jeunes enseignants. Ils ont eu la formation. 2 ans après, ils quittent le terrain pour aller au bureau. Maintenant, on veut les retourner dans les salles de classe. C'est juste. On ne parle pas des anciens qui ont 15 ans, 20 ans de service et qui sont dans les bureaux. On parle des jeunes, je pense que c'est clair. Ils doivent pouvoir se dire, oui, on doit retourner. Et moi, la question que je me pose, pourquoi ces jeunes enseignants ont décidé de quitter le terrain pour pouvoir venir au bureau? Il y a plusieurs raisons à cela, on ne peut pas rentrer dans ce sens. Mais regardons un peu...
Comment... Au frais, près de la climatisation.
Il n'y a même pas de climatisation. Voyons de près la situation au Bénin. Dans les classes, ce qui est considéré comme sous-métier ou sous-métier, dans certaines zones, l'enseignant qui a beaucoup de motivation, beaucoup de vocation, il rentre en classe, il n'y a pas de table, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de matériel pédagogique, il n'y a pas de manuel scolaire. C'est là que le problème commence pour certains enseignants. Donc, ils ne connaissent pas le métier avant vraiment d'aller dans le métier. Et au cours de la formation, on ne met pas l'accent sur ce que c'est que le métier. En d'autres termes, il n'y a pas l'amour du métier.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur des enseignants qui se disent « mais je ne suis pas en mesure de faire le job finalement, Lucria » et qu'on retrouve cette idée de faire revenir des enseignants partis dans des bureaux, dans les salles de classe. D'ailleurs, on a eu une tentative en France de la part d'un ministre de l'Éducation il y a plusieurs années, Xavier Darcos.
Oui, moi je me pose cette question-là aussi avec mon collègue béninois. Est-ce que... L'un des problèmes du travail enseignant, c'est qu'il n'y a pas de promotion ou éventuellement de progression dans la carrière. Et on peut très bien imaginer qu'après avoir enseigné pendant quelques années à certains publics, un enseignant, par envie d'avoir d'autres publics, peut changer et peut avoir d'autres objectifs en termes de formation ou de responsabilité. Et je trouve que c'est un métier qui est un peu figé par rapport au fait qu'il faudrait rester... dans la même situation de travail pendant 40 ans. C'est quand même assez compliqué d'arriver à tenir, d'avoir cette endurance-là psychologique par rapport à ça. Et puis on sait très bien que...
Certains sont taillés pour, d'autres non.
Exactement, il faut avoir une sorte d'endurance et puis les générations changent et à un moment donné, on peut imaginer qu'un professeur un peu chevronné n'ait plus envie d'être devant ce face-à-face.
Donc en fait, vous vous dites qu'il n'y a pas de gestion de carrière, il n'y a pas dans le pilotage des systèmes éducatifs de savoir-faire pour gérer l'usure des enseignants.
Exactement. Je pense que là, il faut à la fois arriver à dynamiser et à permettre aux collègues de se ressourcer. Et le fait de passer d'un contexte d'enseignement à un autre, avoir d'autres tâches, éventuellement d'autres missions, ça peut être très stimulant. Je prends juste un exemple. Cette collègue qui a de très bons résultats scolaires, qui est assez exceptionnelle, elle devrait, à mon avis, enfin non pas quitter la CRE, mais faire de la CRE le relais intergénérationnel pour pouvoir être complètement en responsabilité d'accompagner des jeunes enseignants et pour leur donner ces techniques pédagogiques qui sont les leurs. En tout cas, les siennes dans un premier temps. Et là, je crois qu'il y a vraiment un métier qui ne va pas bien parce qu'il n'y a pas d'autre métier que le travail enseignant où il faut rester dans la même situation pendant toute une carrière.
Et une grande solitude ?
Bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème. Tous ces enseignants culpabilisent, ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire et sont dans des registres individuels face à des élèves. Il y a une vraie solitude. Mmh. Et en France, c'est vraiment un cas important. Et si on arrive à resolidariser pour que les enseignants puissent se donner un peu la main et puissent travailler ensemble, ça change beaucoup de choses.
Je vous lis un message d'Abo à Khartoum. « Éduquer est une longue randonnée pédestre et les élèves sont les fruits de cette randonnée. » C'est une belle image, une belle métaphore, mais ça en dit long aussi sur le sentiment de solitude. « On apprend à l'école un savoir-vivre, un savoir-faire et à faire partie d'une nouvelle génération aussi lucide que forte. » Voilà un beau message. Rivo, qui est dans le nord-est de Madagascar, nous dit « J'enseigne les langues étrangères, notamment le français et l'anglais, au collège et au lycée. Je ne suis pas du tout motivée par rapport à ce que le gouvernement me donne. Je travaille dans une zone enclavée, voire même oubliée, car les réseaux téléphoniques ne sont pas souvent disponibles. Mes élèves sont seulement en contact avec le monde extérieur lorsqu'ils sont à l'école pendant les cours. Enseigner, c'est donc un boulot qui nous fait survivre et c'est ma passion qui me fait vivre. Bon courage à tous les enseignants. » Voilà, oui, encore le message de Diaby à Bamako. Il nous dit qu'enseigner est vraiment un métier ingrat en Afrique. Dans mon pays, le Mali, il faut le dire, être enseignant, c'est la merde. Voilà. On a des témoignages qui sont tout de même assez clairs. Je voudrais que nous donnions la parole maintenant à un homme qui est à Port-au-Prince. Bonjour Nesmi Maniga.
Bonjour, bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Nesmi Maniga, vous êtes ancien ministre de l'Éducation en Haïti. En fait, vous deviez être à Paris pour cette journée mondiale des enseignants, mais vous êtes en plein cyclone, en queue de cyclone à Port-au-Prince, cyclone qui a fait au moins 7 morts, un cyclone qui a été extrêmement violent. Est-ce que déjà, vous pourriez nous dire, avant que nous parlions de la motivation générale et de la condition des enseignants en Haïti, a-t-on une idée des dégâts, notamment sur les écoles ?
Pas vraiment, il faut dire que c'est vrai, en Haïti, les écoles, notamment les écoles publiques, servent d'abri provisoire. Donc, sont toujours réquisitionnés à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles de ce genre-là. Donc, c'est tout frais. On n'a pas encore les bilans, d'autant plus que les contacts téléphoniques ou par radio avec les zones touchées, particulièrement le sud d'Haïti, sont coupés depuis hier. Donc, on a très peu d'informations, véritablement, en ce sens. Mmh.
Alors, Nesmi Maniga, vous avez une longue carrière au service de l'amélioration de l'éducation. Vous avez travaillé à l'Union européenne, en Guinée, dans une ONG en Haïti, puis ministre de l'Éducation dans votre pays. Vous avez rejoint tout récemment à Washington le Partenariat mondial pour l'éducation, qui est une organisation chargée de collecter les fonds gouvernementaux des pays du Nord pour les pays du Sud les plus fragiles, dont Haïti. Aujourd'hui, vous diriez que dans quel état est la condition enseignante en Haïti ?
Écoutez, moi j'ai suivi tous les interlocuteurs avant, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il n'y a pas seulement qu'une crise de l'apprentissage qui nous empêche, qui nous éloigne des objectifs du développement durable, il y a vraiment une crise du métier de l'enseignant comme tel, il y a une espèce de fatigue. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'études faites sur les motivations, sur tout ce qui concerne le parcours de l'élève en salle de classe, nous sommes très peu outillés, véritablement aujourd'hui, pour répondre à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui permet à beaucoup de pays en situation de vulnérabilité, de précarité et difficile comme des pays comme Haïti aujourd'hui, de pouvoir garder, d'abord de recruter des jeunes motivés, de les garder pendant tout le parcours professionnel motivé et qui s'inscrivent dans un parcours de développement professionnel. Mmh. Et je pense que c'est là où il y a une grande difficulté, parce qu'en général, les États, on connaît très bien la difficulté quand il s'agit de dépenser au niveau de l'éducation. Le poste de formation des enseignants, de formation continue, est un poste budgétaire qui, effectivement, arrive presque en fin, parce qu'il y a tellement de pression sur l'accès, il y a tellement de pression sur d'autres rubriques de financement, qu'on oublie souvent. Il faudrait d'abord, en amont, commencer par avoir un bon dispositif de recrutement, de sélection, d'accueil. Parce que, justement, souvent, on injecte les nouveaux venus dans le système sans qu'il y ait véritablement tout un système de mentorat, de coaching.
Oui.
Ils apprennent le métier. On n'apprend pas seulement parce qu'on a acquis des savoirs disciplinaires dans les écoles nationales, dans les écoles d'instituteurs, ou dans les écoles d'enseignement supérieur, on apprend les sciences de l'éducation. C'est aussi un apprentissage dans le métier et ils sont très peu accueillis.
Ouais. Mais je sais que vous dites souvent, Nesmi Maniga, que les enseignants sont en fait à la fois victimes et acteurs engagés. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ben justement, d'ailleurs aujourd'hui, c'est un exemple. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne journée des enseignants à tous mes compatriotes haïtiens. Mm. C'est un exemple très clair. Je pense que trop souvent, dans des situations où on a connu un tremblement de terre, aujourd'hui on connaît un cyclone, je pense que ceux-là qui devraient être en situation pour être en première ligne de la réponse et qui devraient outiller pour le faire et non pas être traités comme victimes, devraient être des enseignants. Et à ce moment-là, cela suppose qu'ils sont dans un processus où ils sont très clairement formés. Ils ont un mandat pour le faire parce que des protocoles bien établis, parce que dans des pays vulnérables comme Haïti ou d'autres, je pense qu'on ne pourra pas attendre que ce soit les secouristes internationaux qui arrivent en premier lieu. Nous avons s'armer, entre guillemets, qui sont mobilisables pourvu qu'ils soient motivés. Et c'est là où justement, quand on parlait de redéfinition du rôle de l'enseignant, je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui conviennent justement à la dimension altruiste de leur rôle. Qui peuvent être vus en dehors de la salle de classe traditionnelle.
Aujourd'hui, vous êtes du côté des bailleurs de fonds, après avoir été ministre. Vous êtes soulagé ou pas ?
Bon, je pense qu'il n'y a pas de soulagement qui soit. Je pense qu'aujourd'hui, le défi du financement de l'éducation concerne non seulement l'apport de la communauté internationale, mais cet apport ne peut être que levier pour le financement domestique. Je pense que c'est une lourde responsabilité aujourd'hui. D'ailleurs, mon rôle au niveau du partenariat mondial pour l'éducation et tout le plaidoyer, c'est pour amener les États à continuer à investir leurs propres ressources au niveau du système éducatif. Naturellement, je pense qu'il y a un effort à faire pour tous la communauté internationale qui s'est engagée à soutenir l'objectif 4 de développement durable. Aussi
sur la qualité de l'éducation.
Absolument, mais le plus important reste la contribution et l'effort national qui convient de faire. Et je pense qu'on ne peut pas sortir de là. Et même quand on parle de la motivation des enseignants, cela revient à la capacité des différents gouvernements, des États, à mettre en place un système professionnel de développement de ce métier. Oui. On l'a dit, le statut des enseignants, les recrutements, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Pourquoi on rentre dans le métier ? Pourquoi d'autres qui rentrent en même temps accèdent à des fonctions, à des promotions ? Quelle est la transparence par rapport aux règles, par rapport aux normes ? Où sont les niveaux de certification des compétences ? Et c'est tout ça qu'il faut régler.
Et tout ça dans un pays qui est probablement l'un des pays au monde où l'éducation est le plus financée par les familles et non pas par l'État. Donc c'est clair aussi que c'est difficile pour les enseignants d'accepter une forme de désengagement financier de l'État. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation en Haïti. Merci et puis bon courage à Port-au-Prince. Peut-être un mot de réaction de nos invités en studio ? Monsieur Ngaou ?
Oui. Bon, je voulais d'abord revenir sur la situation de la motivation donc, des enseignants.
Oui, parce qu'on voit bien qu'on fait tout de même. On fait peser un très lourd poids, finalement, sur les épaules. Oui. On dit, vous êtes au centre du système, même si on a une classe qui est à peu près équipée, c'est vous qui êtes essentiel pour la réussite de vos élèves.
Oui, mais dans le même temps, il faudrait qu'on puisse donner aux enseignants donc, les moyens dont ils ont besoin. Mais au-delà des moyens, je veux apporter une autre dimension. Les enseignants ont aussi des enfants. Et je pense, si on regarde les enseignants du primaire, du secondaire, qui ont des enfants, ils sont très nombreux. Mais dans le même temps, ces mêmes enseignants disent, nous ne voulons pas rentrer dans le métier. Alors je me demande qui va vraiment être dans ce métier pour enseigner.
S'occuper de leurs propres enfants.
Leurs propres enfants. Mmh. Ça, c'est une autre dimension qu'ils devaient pouvoir faire, dire aux enseignants, nous sommes dans ce métier parce que nous aimons les enfants.
Si on regarde
je n'ai pas entendu quelqu'un dire l'amour de l'enfant.
Vous avez raison.
Pourtant, c'est un droit pour les enfants d'avoir une éducation.
Lucria, si on regarde un pays comme la France, il n'y a pas de problème d'équipement des salles de classe. Néanmoins, on retrouve tout de même les mêmes interrogations.
Oui, parce que c'est assez surprenant de voir qu'il y a une sorte de suréquipement par rapport à du matériel informatique, par exemple. Et la pédagogie ne bouge pas, ne change pas. Il y a une sorte de conservatisme assez incroyable. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il faudrait arriver à bouger les choses. Plus largement, je trouve qu'on est vraiment en France et dans d'autres pays sur une sorte de défiance par rapport aux enseignants. Une sorte de climat de reproche, de culpabilité par rapport à un travail qui est mal fait, qui culpabilise beaucoup les enseignants. du fait des mauvais résultats et des mauvaises performances. Et qu'il faudrait faire tout l'inverse, c'est-à-dire créer ce cercle vertueux où on investit autant financièrement par rapport au salaire, mais aussi on investit par rapport à des compétences de haut niveau pour qu'effectivement, avec des critères élevés de sélection des enseignants, pour que les enseignants se remettent en cause et créent cette dynamique vertueuse.
Alors justement, on a une auditrice qui nous appelle, qui est en région parisienne, qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Annabelle.
Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins. Alors moi, j'ai plein de choses à dire. Mais je vais juste parler de reconnaissance. Apparemment, les enseignants sont démotivés parce qu'ils ne sont pas reconnus. Moi, je suis enseignante depuis très longtemps et je suis reconnue par moi-même et c'est le plus important. Et ce qui m'attriste beaucoup, moi, c'est qu'on oublie un petit peu les élèves. J'ai entendu parler de victimes au niveau des enseignants démotivés, mais je pense que les premières victimes, ce sont leurs élèves, parce que comment voulez-vous qu'un enseignant démotivé puisse motiver ses élèves? Donc, ils abîment des élèves et ils les pénalisent et ça me fait extrêmement mal au cœur. Et une dernière chose, je pense que si les enseignants sont aussi démotivés, c'est parce qu'ils sont mal formés. La formation, elle est dramatique. Et c'est ça le problème. Et j'ai entendu quelqu'un qui parlait de l'isolement, de la solitude des enseignants. Moi, je tiens à dire que tous les ans, je pars en stage pour justement éviter cet effet d'isolement. Je me forme, je m'auto-forme, voilà. J'apprends beaucoup en écoutant.
Mais vous partez en stage comment? C'est un stage qu'on vous paye? Comment faites-vous? C'est l'éducation
nationale. Oui, c'est l'éducation
d'accord,
nationale.
C'est ça.
La
donc,
loi des stages.
Vous,
voilà, on s'inscrit,
c'est ça. Vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un stage organisé par votre gouvernement, donc votre ministère.
Tout à fait. Et comme je suis, si vous voulez, de toute façon, tous les ans, je pars en stage. Hein, que ça dure une semaine, deux semaines, j'en apprends toujours. Et le fait d'être avec d'autres enseignants, c'est extrêmement important parce qu'on échange, on compare et on se sent moins seul. Vous voyez? Et il y a aussi tout ce qui passe par Internet. Hein, je veux dire, on peut, il y a plein d'outils aujourd'hui pour se former.
Et ne plus être seul, partager, avoir ce sentiment d'équipe, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans sa salle de classe. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Annabelle. Je voudrais maintenant qu'on donne la parole à notre correspondante à Medellin en Colombie. Bonjour Najet Benrabah.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Colombie. Le pays est encore sonné d'ailleurs par le résultat du référendum qui dit non à l'accord de paix avec les FARC. Mais malgré tout, le pays se transforme avec son lot d'inégalités. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes bien en ligne avec... Ah non, on a la ligne qui vient de couper. Bon, on a cette difficulté. Alors je pense que Lucria, en attendant, vous voulez bien sûr réagir par rapport au témoignage de cette enseignante en classe de maternelle en France.
Oui, en tout cas, Annabelle, merci de rappeler la présence des élèves. Et je crois que Quand les yeux brillent chez les élèves et que c'est vraiment des feedbacks très importants pour les enseignants et qu'à un moment donné, lorsqu'ils se sentent lâchés par l'institution, lâchés par leur chef d'établissement ou leur cadre ou leur pilote, c'est là qu'ils vont rechercher cette reconnaissance-là.
Elle a bien fait de remettre les élèves au centre. Nous vous avons retrouvé, Najet Benrabah, correspondante à Medellin en Colombie. Dites-nous quelles sont les motivations des enseignants aujourd'hui, où ça en est?
Alors, la première motivation, ça reste le salaire. En fait, ici en Colombie, l'heure est payée en moyenne 15 000 pesos pour un professeur, c'est environ 4,50 euros, mais c'est déjà quand même trois fois plus que le taux horaire minimum, qui est lui de 5 000 pesos, soit environ 1,50 euros. De manière générale, les établissements privés, en fait, payent quand même mieux que le public, d'autant plus que l'État a du mal à dégager du budget pour les payer les professeurs. Un exemple, en 2014, une grève de plusieurs jours avait paralysé les lycées et collèges. Les professeurs demandaient le paiement d'arriérés de plusieurs années, certains quand même de 10 ans. Ensuite, bon, il y a quand même le plaisir d'enseigner, de se sentir un peu utile pour son pays. J'ai rencontré plusieurs professeurs qui espèrent éduquer et voir évoluer les mentalités en Colombie. Ils reconnaissent que le système éducatif public a de nombreuses failles, mais ils disent qu'on peut les combler pour donner des chances aux Colombiens. Après, il y a quand même ici le prestige du titre. Et le professeur est très respecté, peu importe le niveau. C'est comme s'il y avait en fait une image de bienfaiteur. Une anecdote, qu'ils soient jeunes ou adultes, les élèves ont tous l'habitude d'appeler leur professeur profé ou teacher, ça veut dire donc professeur. On dit donc, ce n'est pas monsieur, je n'ai pas compris, mais teacher, je n'ai pas compris. Et ça, que ce soit en cours ou même dans la rue, s'ils vous croisent, c'est quelque chose qui est assez perturbant pour nous étrangers.
Oui, en effet. Et quelles sont les conditions de travail?
Ah ben, là, c'est assez précaire pour la plupart. Hein. Si vous n'êtes pas embauché à temps plein dans un établissement public, en général, vous êtes payé à l'heure. Du coup, beaucoup de professeurs travaillent dans plusieurs établissements différents pour cumuler des heures. ils n'ont pas de vacances payées, s'ils ne font pas partie du service public, et même parfois, dans le public, ils n'ont pas de vacances non plus. Ce qui veut dire que les périodes de vacances, comme un mois entier de décembre à janvier pour Noël et Nouvel An, ne sont pas payées, comme celui la semaine de vacances en octobre ou en mars. Et ça, c'est pareil pour privé ou public. Même à l'Alliance française.
Ouais. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir appelé de Medellin. C'est intéressant ce point sur la Colombie, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de précarité sur la situation des enseignants, de la précarité salariale, de la précarité de statut, et en même temps beaucoup de respect. On arrive bientôt au terme de cette émission. Laura Davison, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ça?
Oui, je voulais réagir parce qu'aujourd'hui on a entendu beaucoup de ces précarités des salariés. Et aussi le manque de reconnaissance des enseignantes par la société. Monsieur Manigat du Haïti a parlé du besoin d'investir en éducation. On a maintenant des nouveaux objectifs de développement durable pour 2030. Et le quatrième objectif, c'est
La qualité.
Donc, pour la qualité, c'est clair que les enseignantes sont les piliers de l'éducation, sont les premières qui enseignent les enfants. Donc, on a vraiment besoin d'investir dans les enseignantes pour avoir cette qualité.
Et c'est clair qu'on va revenir évidemment sur cet objectif numéro 4, la qualité de l'éducation d'ici 2030. Avec vous, vous reviendrez bien sûr pour en discuter. Merci à vous tous d'avoir participé à l'émission. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des écrans et des enfants. Quelles conséquences sur leur vie d'adultes. Et bien sûr, vous pourrez participer également à l'émission. À demain, à vous tous.